Lord Jim, de Joseph Conrad. Traduction, Henriette Bordenave. Adaptation, Hervé Prudhon. Premier épisode, avec Jacques Frantz, le capitaine Marlowe. Nicolas Bridet, Jim. Yves Fabrice, le narrateur. Mark Volker, le patron allemand du Patna. Christian Zanetti, escogriffe. Yves Collignon, le président du tribunal. Vincent Cizaret, Bailey. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Serge Ristich, Cécile Braque. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidorov.
Deuxième épisode de Lord Jim d'après Joseph Conrad, demain sur France Culture à 15h40. On se retrouve donc demain pour une nouvelle heure de triple détente avec de la musique, le feuilleton. Et puis pour la littérature, demain nous recevrons Bessora qui sort chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Cueillez-moi, jolis messieurs. Dans quelques secondes, il sera 16h. À 16h sur France Culture, c'est l'heure du documentaire. Je vous laisse donc avec Pierre Chevalier.
Sur les docks. Bonjour, sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. Aujourd'hui, avant-dernier numéro de la série 2007 avant l'heure, avec une projection des problèmes écologiques qui nous attendent. Dérèglement du climat, désertification, raréfaction de l'eau, problème des déchets nucléaires, pollution des mers. La planète Terre doit affronter de nouvelles données et trouver des solutions urgentes pour continuer à vivre. Tout de suite, le documentaire de Lydia Benitzak et Guillaume Baldi, intitulé « 2007 ou le défi écologique ».
Quant à mon l'air moderno-néo-préhistorique.
C'est-à-dire la violence et la connerie des temps modernes sans leur technique et leur confort. Est-ce que dans une nouvelle préhistoire, mais... évidemment, sans harmonie avec la nature, puisqu'elle n'existe quasiment plus.
Bravo! Quelle description! Quelle culture!
Arrêtez.
Hormis les détails, cela était prévisible.
Prévisible?
Parlez-moi encore de la façon dont vivent les gens. Par exemple, comment se nourrissent-ils?
De tout, de ce qu'ils trouvent. Racines, rongeurs, insectes. Et surtout des poissons morts que les mers rejettent constamment sur la grève.
Mais ce n'est pas possible, voilà plus de 20 ans que la consommation de poissons est interdite à cause de l'irradiation et des métaux lourds.
Je peux t'assurer qu'ils s'en fichent. Et quant à autoriser ou interdire, ça ne signifie rien depuis des années.
Je sais.
En la domestiquant, la société industrielle a réduit la nature en n'y voyant qu'un stock de ressources et un absorbeur de déchets. Le stock menace d'épuisement, l'égout déborde. Refusant de se préparer au masque à gaz et à la pastille d'iode, l'homme contemporain persiste à se persuader, après la bombe, Tchernobyl, Seveso, Bhopal, des dizaines de marées noires, un trou dans l'ozone, des milliers de kilomètres carrés de flocage amianté, des millions d'hectares de forêts primaires éradiquées, qu'il pourrait être humainement possible de continuer à se demander tranquillement comment sortir de la surproductivité tout en y restant et qui était responsable du monde dans lequel nous vivons. Tout étant lié, chaque déséquilibre peut entraîner des catastrophes en chaîne. Face à l'immensité des enjeux, la question d'une remise à plat radicale de la logique des systèmes de croissance et de la standardisation du vivant s'impose. Comment lutter contre cette sensation de dépossession, d'impuissance individuelle face au déficit démocratique et à l'hyperspécialisation scientifique qui oblige à s'en remettre aux experts ? Toutes les pollutions ne sont pas circonscrites aux régions du globe où elles ont été provoquées. Voici par exemple comment et pourquoi le réchauffement de la planète, responsable de la fonte des glaciers à l'autre bout du monde, débute précisément ici, juste sous nos pieds.
À labour dégage une tonne de gaz carbonique à l'hectare à cause de la minéralisation. Quand vous faites du semi-direct sous couvert, vous fixez 4 tonnes de gaz carbonique à l'hectare. On a calculé que si tous les agriculteurs arrêtaient de labourer, on baisserait de 40% le dégagement de gaz carbonique planétaire. Bon, en plus, la gestion des effluents d'élevage qui sont gérés maintenant en année robiose, les bêtes n'ont plus le droit de se reposer. Autrefois, les bêtes, vous savez, c'était sur des bons lits de taille de haie et de paille mélangés. Donc, c'était pas anaérobique, ça puait pas. Les étables ne sentaient pas mauvais autrefois. Quand on rentrait dans une étable, ça sentait bon. Maintenant, c'est tellement anaérobique, ça pue des énormes. Et ça dégage du méthane. C'est des putréfactions anaérobiques et ça pollue l'atmosphère. Mais il faut pas accuser les vaches de polluer l'atmosphère comme on le fait à l'heure actuelle. C'est la gestion de nos effluents d'élevage qui ne respecte pas les lois du sol qui fait que ça pollue. C'est-à-dire que c'est un refus de la part de l'agronomie de respecter les lois biologiques du sol. Vous ne pouvez pas violer des lois vivantes. Si vous les violez, ça vous retombe contre, ça se retombe contre vous.
Sur les docks, 2007 ou le défi écologique, par Lydia Benitzrak, réalisation Guillaume Baldi.
Claude et Lydia Bourguignon, on est dans les alentours de Marais-sur-Til, près de votre laboratoire d'analyse de microbiologie des sols. Mais avant de monter ce laboratoire indépendant, vous étiez tous les deux chercheurs à l'INRA.
Oui, nous avons travaillé, c'est là d'ailleurs que nous sommes rencontrés, puisqu'il n'y avait qu'un seul laboratoire de microbiologie des sols agricoles en France, c'était à l'INRA de Dijon.
L'Institut National de Recherche Agronomique.
Donc Lydia, elle travaillait sur la qualité des aliments. Et moi, je travaillais sur le sol. Donc, on était au debout de la chaîne alimentaire, le sol et la qualité des aliments.
Dans les années 70-80, il y avait eu un problème avec l'huile de colza. Donc, l'INRA avait trouvé, et d'autres laboratoires avaient trouvé un élément, un acide gras qui pouvait provoquer certaines choses au niveau, certains problèmes au niveau de la membrane cardiaque. Et c'est vrai que les résultats, en fait, ne sont divulgués que quand, de façon, je dirais, les industries agroalimentaires, les politiques se mettent d'accord. Et à ce moment-là, bon, on dévoile les résultats. Donc ça, c'est une chose qui m'avait profondément chagrinée par rapport aux consommateurs. Et c'est vrai que cette extraordinaire chose de monter une entreprise privée, un laboratoire au service vraiment des agriculteurs et des consommateurs, bon, a été une envie folle de le faire avec, c'est sûr, énormément de problèmes après. Mais en fait, bon, on a franchi le pas, quoi.
Et moi, j'avais montré dans mes études que les sols étaient en train de mourir. Et donc j'avais proposé de le publier, l'INRA m'avait immédiatement convoqué à la direction générale en me disant qu'il était hors de question de publier ça et de ne pas alarmer la population. Donc tous les deux, on n'avait qu'une envie, c'était quitter puis monter un laboratoire indépendant, libre de toute pression politique ou financière. Alors le sol, c'est un milieu vivant, il héberge 80% de la biomasse de la planète. C'est-à-dire qu'il y a 80% des êtres vivants sont dans le sol, ils sont pas sur le sol. Le problème, c'est que nous ne les voyons pas parce qu'ils sont très petits. Si vous prenez par exemple les microbes, vous avez 3 tonnes de microbes à l'hectare, c'est beaucoup plus que de vaches à l'hectare. Ils ont une activité biochimique 350 fois supérieure à la nôtre. Donc ils représentent une énergie biochimique énorme. Et c'est eux qui vont faire le transfert des éléments minéraux du sol, du monde minéral de la terre, vers les plantes. Et ensuite, ils vont nous nourrir. Or, en 50 ans d'agriculture intensive, nous avons décidé de ne pas accepter cette vérité que le sol est vivant. On a décidé que le sol, c'était un support chimique, inerte, et qu'il y avait juste à mettre des engrais chimiques dessus. Le problème, c'est que les microbes, ils fournissent une trentaine d'éléments aux plantes, donc ils les équilibrent énormément, ils font des plantes très saines. Quand vous avez un sol mort et que vous donnez uniquement ce qu'on appelle en agriculture NPK, c'est-à-dire azote, potasse, phosphore, vous déséquilibrez les plantes. C'est comme un gamin qui vous donnait que du sucre et des pâtes, il devient un petit mammouth américain, il est malade. Et les plantes sont malades. Et comme les plantes sont malades, on les traite avec des pesticides. Ces pesticides modifient la composition protéique des plantes, d'où toutes les allergies au gluten, etc. Et donc les hommes sont malades. Quand le sol est mort, les hommes sont malades. Mais ça, les hommes n'ont pas encore compris.
C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, le blé qu'on cultive chez nous et qui sert de base à l'alimentation est complètement différent de celui d'il y a quelques décennies.
Ah ben, il est tellement différent que 40% du blé produit en Europe ne peut même plus être transformé en pain. On ne peut pas faire de pain avec et donner directement aux cochons. Nous sommes la première civilisation du monde à donner la céréale noble qui est le blé à nos cochons alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim.
Et alors, comment vous expliquez cette dégénérescence du blé ?
Parce que le sol est tellement mort qu'il ne peut plus nourrir les plantes, donc il ne peut plus leur apporter de l'équilibre, donc on est obligé de les traiter. Alors on pousse les rendements, c'est sûr, hein, mais plus vous poussez les rendements, plus vous remplissez une plante d'eau, et plus elle est de mauvaise qualité, et même impropre dans certains cas. Il y a des, dans les années 60, on faisait du vin, on pouvait plus, du raisin, on ne pouvait plus le transformer en vin. Les sols sont morts. Nous, dans notre laboratoire, nous avons fait plus de 5000 mesures d'activité biologique des sols en France. Nous avons détruit 90% de l'activité biologique de nos sols. 90%, c'est pas, si vous voulez, 20% de destruction, c'est 90%. Les vers de terre sont passés en France de 2 tonnes à l'hectare à moins de 100 kilos. Il y a une véritable destruction de notre système sol. Et les citoyens, je pense, ne veulent pas entendre parler de ça.
Et destruction et multiplication d'espèces, on va dire, vous voyez de plus en plus de mouettes, de corbeaux, des tourneaux. Donc en fait, des animaux, des espèces qui s'adaptent complètement à ce problème de pollution. Mais par contre, la diversité, les gens disent, on a encore des oiseaux. Oui, parce que c'est des corbeaux, c'est des étourneaux, mais pas la diversité de toute cette faune, il n'y en a plus. Donc en fait, en plus, il y a une adaptation. Donc les gens disent, ben, si, il y en a, mais ils se sont adaptés. On a une augmentation d'espèces, on a une très très forte diminution des autres espèces.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nos collègues qui sont au CNRS observent la même chose que nous. C'est-à-dire que nous, on observe 90% de la disparition de la vie du sol, et eux, ils observent la disparition de 90% des reptiles, 90% des amphibiens, 90% des oiseaux, 90% des mammifères. C'est-à-dire que le sol, c'est à la base de la vie, et quand vous tuez le sol, c'est tout le système vivant qui s'écroule. Et après, ce sera l'homme, mais ça, il faut que les hommes prennent conscience de ça.
Max Vidal, vous êtes géologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement sur quel type de recherche vous travaillez ?
Bon, moi, donc, je suis géologue enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Je travaille, moi, dans ma spécialité propre, sur le substratum, c'est-à-dire sur les roches profondes. Et ces roches profondes traduisent l'histoire de la Terre, l'histoire des chaînes de montagnes. Et je suis plus particulièrement spécialisé en géologie africaine. C'est en Afrique qu'on trouve parmi les plus vieilles croûtes. Les croûtes, quand on appelle croûtes, c'est-à-dire les parties de roches qui constituent les continents actuels. La géologie guide énormément le comportement animal, la végétation évidemment, mais même dans ces régions-là, dans les pays avec un habitat assez ancien, habitat humain assez ancien, c'est très très guidé par la géologie. Donc c'était ça le début. Et puis à l'occasion de balades, je me suis rendu compte de certaines choses, d'érosion bizarre, qui dégradait en fait les forêts sur lesquelles on travaillait, les aires protégées et qui avaient été mis jusque-là sur le compte des éléphants. C'est-à-dire qu'en fait l'idée au début c'était de dire oui, il y a des dégradations, oui, on voit très bien des berges qui s'en vont, oui, on voit des arbres abattus, c'est de la faute des éléphants, parce que dans le coin où on travaillait, dont je ne vous ai pas parlé, c'est la région de Boromo, au sud-ouest du Burkina Faso, c'est sur le fleuve Volta, c'est l'ancien nom de Volta, à l'heure actuelle ça s'appelle le Moon. Ben justement, il y avait des dégradations dues à une grosse concentration d'éléphants. Bon. On est allé voir, et puis le fait que je sois géologue m'a fait voir les choses autrement. Et en fait, c'était pas du tout la faute des éléphants, c'était la faute d'un certain type de substratum géologique qui guidait l'érosion, mais aggravé par quelque chose. C'est-à-dire que par rapport à ce que je connaissais de la région, des régions avoisinantes, il y a des indicateurs qui disaient ça va pas. L'érosion qu'il y a là est beaucoup trop rapide. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Alors j'ai vu des choses qui, j'ai cité la phrase des arbres qui courent, comme des arbres qui relèvent leurs jupes pour courir plus vite. Effectivement, vous voyez des arbres avec leur feuillage, avec toute leur végétation, et qui sont à un mètre au-dessus du sol, suspendus sur leurs racines. Puis beaucoup d'autres exemples dont on aura peut-être l'occasion de parler, mais qui montraient qu'il y avait une dégradation extrêmement rapide des sols, départ des sols. Puis après avoir analysé un certain nombre de choses, on s'est aperçu que c'était probablement dû à une baisse rapide du niveau de la rivière, du niveau de l'eau de la région. Comment vous dire à quoi on est arrivé à la conclusion que c'était dû probablement au réchauffement ? Il faudrait peut-être expliquer, il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais on s'est aperçu que c'était probablement dû à des battements très rapides de la nappe d'eau, rechargée par l'arrivée en période de crue et déchargée en période d'étiage. Mais comme le niveau d'étiage est beaucoup plus bas qu'autrefois, le battement se fait beaucoup plus rapidement, déstructure les sols de manière absolument irrémédiable. Donc c'est cet aspect indirect de la dégradation rapide de la végétation qui nous a fait dire il y a un changement. À la suite de ça, évidemment, on s'est dit changement, tout ça est empirique. Ça, le problème, scientifiquement, c'est, comme on dit, c'est du pif, c'est l'expérience africaine qui fait dire il y a un problème. On s'est dit comment on peut démontrer ça. Alors la première chose, déjà les enquêtes. On a fait des enquêtes villageoises, on est allé voir les vieux. Et l'enquête qui a été menée par un de nos collègues IRD, burkinabé, était sans appel. Tout s'est dégradé depuis les années 80. Là où les gens avaient une piste, il n'y avait plus de piste. 10 ans après, là où les gens avaient leur champ, il n'y avait plus de champ. Et depuis 10 ans, là où les gens avaient un puits, il n'y a plus que des rigoles, il n'y a plus que des berges. L'avancée à certains endroits est de l'ordre de 10 mètres par an d'érosion. Dans cette région-là, il y a depuis les années 80 une dégradation extrêmement rapide des sols due à une baisse du niveau des rivières. Ça depuis 80, au dire des anciens. Bon, alors nous, scientifiquement, le dire des anciens, c'est bien, mais on essaie de ne pas s'en tenir là. Et la seule solution, c'est d'essayer d'avoir d'autres arguments indirects. Bon, mes collègues biologistes ont d'autres arguments. Mon collègue botaniste, lui, a vu des évolutions de faune, de flore, dans le sens réchauffement. J'ai un collègue biologiste qui travaille sur les singes, Monsieur Galat, qui a vu des évolutions des comportements des familles de singes patasses, dans le sens aussi d'un réchauffement climatique, c'est-à-dire réorganisation de la famille. Bon, j'ai pas les termes, je sais pas exactement, mais je crois que c'est un seul mâle pour des femelles beaucoup plus petites, au lieu de plusieurs mâles et de grandes femelles, et un seul mâle pour des femelles plus petites, les femelles plus petites consomment moins, elles sont moins difficiles, un seul mâle, c'est moins difficile à entretenir par les femelles, à nourrir, donc ça donne des systèmes, moins gourmands pour l'alimentation. Et il a vu très nettement ces choses-là évoluer depuis quelques années. Mais tout ça, c'est encore, c'est du court terme. C'est du court terme c'est mis en évidence, c'est-à-dire que le réchauffement dans ce coin-là, le changement climatique est mis en évidence par des facteurs aggravants. Quand un phénomène est prograde, à échelle humaine, on ne peut pas forcément le voir. On va le voir lorsqu'il y a les effets de seuil. Et dans cette région-là où on a ces anomalies et ces deux structures dans le sol, ces fractures dans le sol qui favorisent l'érosion, on a cet effet de seuil. C'est-à-dire que c'est le phénomène aggravant qui attire l'attention, qui nous dit qu'il se passe quelque chose. Et là, du coup, à partir de là, les biologistes se sont dit « Ah mais oui, il y a quelque chose. » Les botanistes « Ah mais oui, il y a quelque chose. » Et puis le projet qu'on a monté l'année dernière, mais je ne sais pas si on aura un financement, c'est de démontrer ça. Et démontrer, il n'y a qu'une seule chose, un seul élément qui est une mémoire long terme des choses, c'est la Terre. C'est-à-dire qu'il faut demander à la Terre ce qui s'est passé. Le seul moyen, ce sont les carottages de berges qui enregistrent la sédimentation et des phénomènes qui sont produits depuis 100, 200, 500, jusqu'à 1000, 10 000 ans. La création des sols en Afrique remonte à plusieurs millions d'années. Il n'y a pas de création de sol comme nous on peut en avoir en Beauce ou ailleurs, il n'y en a pas. Donc quand un sol s'en va en Afrique, il s'en va définitivement à l'échelle humaine. Et c'est, à mon avis, aussi grave que la perte d'eau. La perte d'eau entraîne la déstructuration des sols, l'érosion, la recherche de terre dans des endroits plus difficiles, et donc la dégradation définitive.
Mais à vous écouter, Max Vidal, on a l'impression que il s'agit d'une course contre la montre. D'un côté, on a l'accélération du réchauffement de la planète, et de l'autre, des scientifiques, chacun dans sa spécialité, sans qu'il y ait forcément de recoupement, qui va constater des dégâts de manière très locale, mais qui en réalité sont disséminés sur des lieux très éloignés de la planète, et on n'a pas forcément une vision de cette convergence. Et le temps qu'on accumule les preuves et qu'on se pose les questions des solutions, sans doute sera-t-il trop tard.
Oui, je pense aussi. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que les impressions qu'ont les scientifiques qui ont l'habitude de certains pays, l'habitude de certaines choses, il faut les prendre en compte. Je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues qui disent il faut attendre, les choses sont pas démontrées, c'est pas sûr. Là, on est sûr, dans le cas du Burkina Faso, moi je dirais à 80% que les choses se dégradent. On peut pas prendre le risque. Qu'est-ce que ça peut faire d'aller dire, de crier sur tous les toits, oui, attention, vous allez perdre vos sols, vous allez perdre votre eau. Il y en a peut-être des gens qui vont se fâcher, il y a peut-être des gens qui vont... Et alors ? Tant pis. Et puis, c'est pas vrai.
C'est pas grave. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que ces pertes, il s'agit de pertes irréversibles.
Ah, les sols, c'est irréversible.
On est allé très très loin, sans vouloir faire de pessimisme.
Lydia et Claude Bourguignon.
Je vois pas comment, moi personnellement, je vois pas comment on peut freiner cette avancée en avant qui va de plus en plus vite. Même, pour moi, ça me paraît quasiment impossible. Quelque part, pour moi, c'est les agro-industriels ont gagné. Par exemple, au niveau des agriculteurs, à l'heure actuelle, nous n'avons quasiment plus d'agriculteurs comme clients. Donc c'est bien qu'il y ait une démobilisation, même du monde agricole. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Quand on parle de certaines techniques où il n'y aura plus de labour, donc moins de fioul, moins...
Alors justement, on peut évoquer ces techniques qui éviteraient le fait de déverser autant de pesticides et de produits chimiques dans les sols et d'avoir des répercussions aussi incalculables.
Disons que nous, notre travail, c'est de regarder comment fonctionne un sol, sur le plan biologique. Un sol, dans la nature, il n'est jamais retourné, il n'est jamais bouleversé. Donc la première opération qu'on apprend aux agriculteurs, c'est arrêter de labourer et passer à des techniques qu'on appelle le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire qu'on prend des plantes qui vont protéger le sol pendant l'interculture, qui vont le structurer, et ensuite, ils vont semer directement cette plante. Donc on essaie de trouver des espèces qui gèlent pour qu'elles meurent pendant l'hiver et leurs plantes poussent au milieu. Donc ça fait dépenser, par exemple, pour un semi, vous passez de 140 litres de fioul à l'hectare dans le travail annuel à moins de 30 litres, même moins de 20 litres. Donc grosse économie de fioul pour l'agriculteur. Son tracteur, il a plus besoin d'être un gros tracteur, donc il a juste un semoir à tirer, il a pu attirer une charrue. Il respecte son sol, la matière organique remonte, les vers de terre reviennent, ils consomment moins d'engrais puisque le sol nourrit mieux la plante, donc moins de pesticides. Le problème, c'est que vous avez les coopératives qui vous rendent compte qu'elles vendent plus d'engrais, comme c'est les mêmes entreprises qui fabriquent les engrais, qui rendent les plantes malades, qui fabriquent les insecticides et qui fabriquent les médicaments, ils n'ont pas envie que ça change. Donc, ils freinent, ils racontent aux gens, aux agriculteurs qui se lancent là-dedans, c'est n'importe quoi comme technique, tu vas te ruiner, tu vas faire faillite, etc. Bon, la peur, vous savez, Bush, il joue sur quoi? La peur. Toute notre époque joue sur la peur pour que ça bouge pas. Donc on fait peur aux paysans et ça bouge pas.
Mais là, on a un exemple flagrant. On a un technicien, là, monsieur Sébastien Laprépote, là, qui travaille pour nous. Et il est fils de paysan. Donc il est arrivé il y a 8 ans au laboratoire. Et c'était quelqu'un qui était, on va dire, NPK, chimie, tout à fait classique. Petit à petit, en travaillant au laboratoire et en faisant ses analyses de sol, c'est vrai que là, ça l'a interpellé. Donc il a commencé, lui, à changer, à comprendre. Il a mis plus de 5 ans à faire changer son père. Alors qu'il était dans son fils était dans la place pour la compréhension. Bon, là, il a repris, son père est parti en retraite, il a repris et il suit ses techniques. Il est la risée de son village. Donc ça, un agriculteur qui fait ça aussi, il faut qu'il arrive à vivre avec cette pression des autres en disant de toute façon ça marchera pas, ça va être malade. C'est ceux qui font cette démarche-là sont tout seuls. Il est tout seul dans son village. Il faut qu'il aille chercher d'autres pour essayer de se soutenir. Donc on est quand même, c'est vraiment une déstructuration de l'esprit. Il faut décompacter les cerveaux pour que les agriculteurs comprennent ça. Il était dans la partie, vous rendez compte, 8 ans à faire des analyses, à voir que l'activité... Et quand il y avait des clients qui étaient en semi-direct et qui voyaient que cette activité biologique montait, ils disaient, mais incroyable, et que le client disait, ah ben tiens, j'ai utilisé moins de fioul, oh ben j'ai changé mon tracteur au lieu d'un de 200 chevaux, je suis passé à 100. Et comme il dit, j'ai la calculette, j'ai réalisé que, bon, ça serait peut-être intéressant pour moi, mais son père était totalement contre.
Première année, il a économisé 7000 euros de fioul. Pour un jeune paysan qui démarre, 7000 euros dans la poche, c'est quand même plus agréable que de l'avoir donné à des marchands de fioul. Mais tout le monde se moque de lui. Donc le problème, vous savez, dans l'innovation, il travaille dans le Quenouzan avec Lydia, c'est s'occuper de la vie des sols et d'innover, vous avez un tel conservatisme, une telle puissance financière de l'agro-industrie, que ça bouge pas. Vous savez ce que disait Machiavel, l'innovation a du mal à passer parce que vous gênez ceux qui sont en place qui font de l'argent avec les vieux systèmes, et ceux qui feront de l'argent avec le nouveau n'ont pas encore compris leur intérêt. Hein, donc ça bouge pas.
Mais quand vous dites progresser, c'est-à-dire quand vous décrivez une sorte de résistance post-industrielle, en réalité, quand vous dites il faut cesser de labourer.
Les hommes n'avaient pas d'autre technique que le labour pour lutter contre les mauvaises herbes. Parce qu'il y avait une chose qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'on peut utiliser des plantes pour étouffer les mauvaises herbes et qu'on n'a pas besoin du labour. Mais ça, c'est pas une chose que les hommes ont compris tout de suite. Donc ils ont travaillé la terre d'abord à la houe, puis au fur et à mesure que la technologie va avancer, va évoluer, ils vont inventer la chariot au 18e, enfin. Mais c'est devenu une croyance. Hein. Il y a des concours de labour. Il y a, je me souviens à l'agro, quand j'ai fait l'agro, il y avait un illustre inconnu en bronze, puis dessous il y avait écrit jamais le labour, on est trop profond. Vous êtes dans la mythologie. Vous n'êtes pas dans la science. Vous êtes dans un système mythologique. C'est de la sociologie. Il faudrait des psychiatres hein, pour expliquer aux agriculteurs que faut pas se cramponner aux vieux mythes qu'on dit mille ans d'âge. C'est biblique et donc on peut pas y toucher. Nous en rendons bien compte. Hein, les agriculteurs. Faire arrêter le labour à un agriculteur, il faut d'abord faire un travail de psychologie et d'évolution sociologique pour qu'il comprenne que ce qu'il fait, c'est de l'archaïsme. Tout ce que l'agronomie vous raconte, que c'est un support pour les engrais chimiques, c'est faux, c'est scientifiquement faux. On peut nourrir des êtres humains sans engrais chimiques et sans pesticides. Mais retirer ça de la tête des gens alors que c'est enseigné depuis 50 ans par les grands marchands de l'agro-industrie, c'est très compliqué. Pour vous donner une idée, la chaire de microbiologie de l'agro que j'ai fait moi à l'époque est fermée depuis 1986. Il n'y a pas un seul agro qui sort en France et qui sait qu'un sol est vivant. Toutes les chaires de microbiologie des sols agricoles ont été fermées dans le monde. C'est une discipline qui n'est plus enseignée. Et c'est pas pour rien. L'agro-industrie veille à ce que surtout on dise pas aux jeunes étudiants en agronomie que le sol est vivant et que c'est les microbes du sol qui nourrissent les plantes. Les microbes ne sont pas brevetables, donc il n'y a pas d'argent à faire, comprenez ?
Alors, vous vous rendez compte, on le dit, que les microbes vont solubiliser, vous n'avez plus besoin de rajouter de potasse, de magnésie, de calcium, de phosphore, de bore, de fer, il n'y a plus rien.
Donc plus vous labourez, moins vous avez de matière organique, plus il y a d'érosion, plus vous avez de boue dans les rivières et plus vous polluez. Si au contraire vous faites de l'humification, vous relancez les champignons, il y a plein de techniques, type purée d'ortie, type remettre, garder le mulch sur le sol, etc. Plus vous refaites de l'humus, plus le sol est riche, moins vous lessivez dans les nappes phréatiques et dans les rivières, plus votre sol s'enrichit. Et une forêt, vous savez, vous prenez le plus vieux modèle biologique que nous connaissons sur Terre, qui est la forêt de Bornéo, elle a 150 millions d'années, elle reçoit 9 mètres d'eau par an en pluviométrie, et elle continue à faire pousser des arbres de 80 mètres de haut, alors qu'il n'y a jamais eu d'engrais dessus. Il n'y a pas besoin d'engrais pour faire pousser la vie. Mais c'est tellement ancré et enseigné dans les lycées agricoles que les élèves finissent par le croire. Oui, ça s'appelle du bourrage de crâne, ça s'appelle de l'idéologie, mais c'est pas de la science.
En Bretagne, on leur interdit de laisser le fumier en surface, hein, parce que soi-disant, ça sent et tout. Donc, il faut qu'ils l'enterrent. Donc, plus ils enterrent, plus ils polluent, plus ils ont de nitrate, alors qu'en fait, ils le laisseraient en surface décomposer. En fait, ça sentirait pas, on dit que c'est parce que ça sent mauvais, mais ça sentirait pas longtemps. Et en fait, il y aurait une réelle augmentation de la matière organique, une vraie humification. Mais non, en fait, les agriculteurs bretons, on leur demande de l'enfouir. Donc en fait, ils vont complètement à l'encontre de ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en fait, ils polluent de plus en plus leur sol, mais ils n'ont pas le droit, parce qu'il y a un arrêté qui dit que ça gêne les riverains.
Avons passé dedans vos prés, les avons trouvés bien fumés. Avons passé dedans vos blés, oh comme ils sont tous bien grainés.
La 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 la.
Si vous prenez par exemple les fraises et les tomates, 99% des fraises et des tomates vendues en Europe sont hors sol, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais vu la terre, elles sont élevées dans des systèmes artificiels de laine de roche. Et on va vous vendre ça sous le nom fraises de terroir de Plougastel, alors qu'elles n'ont jamais vu le sol de Plougastel. Normalement, on ne devrait appeler produit de terroir que quelque chose qui a poussé en plein champ dans une localité donnée. Tout est faussé, quoi.
La définition du terroir, c'est une géologie, une topographie, un climat et un sol.
Mais tout est mensonge. Et ce qui est intéressant, la question que je me pose, c'est pourquoi les gens acceptent ce mensonge. Ils attaquent constamment en procès l'industrie, alors que l'industrie, elle ne ment pas. Quand on vous écrit qu'une chemise est faite entièrement en coton, ils sont obligés d'écrire la composition. Dans l'industrie agroalimentaire, vous pouvez mentir complètement, raconter, alors que c'est du produit chimique de synthèse, raconter que c'est naturel, aucun consommateur ne proteste. C'est très curieux. Je pense que psychologiquement, les gens ne veulent pas, ils font la queue politique de l'autruche, ils ne veulent pas accepter qu'ils sont en train de s'empoisonner. Maintenant, nous nourrissons de chimie. Hein, pour vous donner une idée, à l'époque chasseur-cueilleur, l'humanité mangeait 10 000 espèces animales et végétales, zéro molécule chimique. À l'heure actuelle, 96% de l'humanité mange moins de 40 espèces animales végétales et 10 000 molécules chimiques. Donc, vous voyez, on a remplacé une biodiversité vivante par une diversité chimique sans se poser de question si l'homme est capable en 50 ans de s'adapter à ça. Et on sait qu'il le fait pas parce que les Américains qui ont été les premiers à manger de l'agriculture chimique ont des problèmes d'obésité, de stérilité, d'allergies beaucoup plus graves que nous. Ça a commencé il y a 20 ans. Nous avons 20 ans de recul et nous commençons à voir apparaître l'obésité, les problèmes d'allergie en Europe avec 20 ans de décalage. Mais les Américains ont déjà perdu 4 ans d'espérance de vie par rapport à nous. Nous, nous arrêtons d'augmenter notre espérance de vie. Nous commençons doucement le déclin comme les Américains. Mais simplement avec 20 ans de décalage, nous mangeons chimiquement seulement depuis les années 70.
Mais chez nous, l'espérance de vie augmente tout de même. C'est l'argument.
C'est fini maintenant. Ça a augmenté, maintenant c'est fini, c'est bloqué. En Angleterre, ça commence déjà à baisser.
Non, ça c'est faux. En fait, l'espérance de vie, elle a été faite sur les gens. Les gens vivent en ce moment vieux parce que c'est des gens qui se sont nourris avant l'industrialisation des produits en 1970, on va dire. Donc en fait, si on décale, mais je voudrais voir nous, notre génération, la génération de nos enfants et de nos petits-enfants, si l'espérance de vie, ça sera la même.
On a l'impression, Max Vidal, alors que vous êtes géologue, que vous auriez du mal, par exemple, à donner des pistes de solutions pour remédier à une telle accélération.
Remédier à une accélération pareille, c'est pratiquement... mon avis, c'est affreux. Je vais faire dire un truc qui peut faire grincer les dents les gens, mais moi, le premier, c'est arrêter la croissance. C'est-à-dire arrêter la consommation. Donc, qui dit arrêter la consommation, arrêter la croissance, dit provoquer une crise grave. Ça veut dire que le plus qui fait vivre notre système, à mon avis, la bourse, qui vit sur le plus, tout le monde, qui a toujours des cicas ou des choses comme ça, ben, il faut arrêter de vouloir le plus. Il faut pratiquement trouver des systèmes fermés, en circuit fermé, qui vont diminuer le prélèvement sur le milieu extérieur. Mais je suis pas capable. J'ai entendu certaines personnes en parler déjà d'arrêter la croissance, ce qui est pratiquement un mot très dur à entendre pour pas mal de gens, mais parce qu'on ne sait pas comment faire fonctionner le système autrement. Moi, je sais pas. Tant qu'il y aura des pays, qu'il y aura des pays qui auront envie d'avoir ce que l'on a, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique. Tant qu'ils n'auront pas atteint notre niveau, hein, tant que nous, on n'aura pas freiné en contrepartie pour les attentes, ce qui veut dire au niveau social, au niveau économique, une véritable catastrophe. Hein, personne ne votera pour quelqu'un qui va dire ça. Mais tant que ça ne sera pas arrivé, que ces gens-là ne seront pas équilibrés, quand je veux dire arriver à l'équilibre par rapport à nous, il ne se passera rien. Pas la peine que nous, on aille dire, on arrête la croissance, on va vivre avec ce qu'on a, face à la Chine, face à l'Inde, face à l'Afrique. C'est même pas du ressort de pays, parce que c'est vraiment... c'est la première fois qu'on a une action qui dépasse les États, qui va au-delà, que l'intérêt d'une perte d'eau, un barrage d'eau à un endroit entraîne une catastrophe ailleurs, une pollution radioactive ici. Donc on a besoin d'une vue d'ensemble du globe. Et l'Europe est quelque chose de trop petit. Les États-Unis ont déjà une vision mondiale, ont déjà plus les moyens de ça. Mais ils n'ont pas la politique qui va avec. Hein. Non, je crois que justement, chaque personne, si vous interrogez chaque personne ne verra que son jardin. Son jardin qui, avec ses clôtures par rapport au jardin d'à côté, que ses propres choses. Donc ça, on peut demander, mais voter une décision au niveau de la planète, c'est pas possible. Regardez la protection, par exemple, de la faune marine. Vous comprenez bien que Saint-Jean-de-Luz ne votera pas de la même façon qu'à Paris. Et il faut vraiment un système de décision qui soit international, mais qui ait de la force au-delà des États actuels. S'il n'y a pas ça, eh ben, ce sera toujours les intérêts locaux. Les intérêts locaux, ce sera toujours le prélèvement local. Ce sera toujours. Bien sûr, on va râler si des gaz arrivent de l'autre côté de la frontière, mais on continuera à consommer sur place, à consommer notre eau, à consommer nos poissons, à consommer notre faune immédiate. pour l'instant, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Donc tout ce qu'on va faire, c'est des bouts de scotch à droite, à gauche, des règlements par-ci, des lois par-là, des blocages à droite, à gauche pour essayer d'endiguer le problème. Mais tant que la loi du toujours plus en sens possession, en sens bien, création de bien, aux dépens de la planète continuera, on s'en sortira pas. On finira dans le mur.
Mais là, vous écoutez Max Vidal, on dirait vraiment donc de quoi qu'il arrive, à ce stade, on est la dernière génération à voir encore des animaux sauvages en liberté, dans des zones non protégées, ou avoir une telle diversité au niveau mondial, et que nos enfants ne verront jamais cela.
Donc ça, on sera réduit en de grands supertoiries. Ça, je pense que ça arrivera, comme il y a au Kenya, et encore avec des problèmes génétiques. Mais c'est là qu'on verra notre faune dite sauvage. Oui, je crois que les grands espaces, ça c'est... les grands espaces de faune, ça c'est fichu. Mais nous, en Europe, on vit bien avec nos forêts. On est bien dans nos forêts. Regardez la pauvreté. La pauvreté, c'est... Mais on vit bien. C'est ce que nous disent les Brésiliens ou les Africains. Ils nous disent, mais attendez, vous vivez avec quoi en Europe? Oui, avec trois chevreuils, enfin, je veux dire, trois espèces animales, combien d'espèces végétales? C'est pas énorme. De ce côté-là, on vit très bien. On est très content, on est adapté à ça.
Oui, mais le poumon vert de la planète n'est pas de notre côté, effectivement.
Ah oui, mais créer des arbres, créer suffisamment d'arbres pour faire de l'oxygène, consommer le gaz carbonique, c'est pas un problème. De ce côté-là, à mon avis, le fait d'avoir des forêts, nous, on a perdu nos forêts, on a brûlé nos forêts, on reconstitue nos forêts, en ce moment, on en a trop, paraît-il. Ça, c'est pas un problème. Avoir des animaux autour de nous, non plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudra apprendre à nos enfants et aux Africains, aux Brésiliens, qu'un jour, eh ben, ils auront une forêt pauvre, ils la referont, leur forêt pauvre, avec une faune pauvre, comme nous on a.
Dubreuil, spécialiste de la gestion sociale du risque.
C'est parce que vous habitez quelque part, que c'est à côté de chez vous qu'existe une pollution, ou que ce sont vos enfants, ou que c'est dans votre chair que se manifestent les effets de telle chose, ou c'est votre investissement personnel qui fait que pendant 20 ans, 30 ans, vous n'allez pas lâcher la rampe et vous serez présent sur un sujet, c'est ça la continuité, si vous voulez. Bon, alors, là-dedans, l'expert, lui, il est payé pour ça, c'est son métier. Il y a des cas d'experts, on appelle ça les donneurs d'alerte, qui vont, au fond, progressivement se mettre à dos. De cette manière, d'ailleurs, ils vont toujours adopter des positions qui vont les transformer en bouc émissaire, en général. Ça se termine souvent mal. C'est-à-dire qu'ils se font attaquer très violemment, parce qu'ils sont à contre-logique, d'une certaine manière. Donc, ils sont pas toujours les mieux placés, d'une certaine manière, pour agir. Vous comprenez? Alors, la véritable expertise, elle doit se construire chez les gens. C'est eux qui, normalement, doivent, d'une certaine manière, ils peuvent pas ne faire que ça. Quand j'habite à côté d'une centrale, je ne peux pas m'occuper que de sûreté nucléaire. La colère est une ressource. Vous m'avez dit, vous êtes parti de où sont les responsables, de cette manière, où sont les responsabilités? Je pense qu'il faut d'abord nous tourner vers nous-mêmes. On est dans une espèce de logique de grande colère et de dénonciation et de... mais le problème, c'est où est-ce que ça mène? Voilà, ça. Où est-ce qu'on va? Il y a des systèmes aussi, si vous voulez. Il y a des systèmes de gouvernance. Si tout d'un coup le crédit, c'était le Crédit Lyonnais qui s'est effondré d'un seul coup. Alors vous vous dites, bah, c'est quand même curieux quand même, parce que le président du Crédit Lyonnais fait du golf tous les matins avec le président, le directeur du Trésor. Et puis en même temps, il y a l'audit, le cabinet d'audit de la banque. Bah, ils étaient à la maternelle ensemble. Ils ont tous fait telle école. Il y a un moment où au-delà des comportements individuels, vous avez des systèmes qui sont vicieux, si vous voulez. Vous n'avez plus, l'être humain n'est pas, peut jamais être totalement vertueux, donc vous avez besoin de systèmes qui fait qu'il y a des contre-pouvoirs, il y a un accès partagé à l'information, c'est ça aussi une démocratie. Et est-ce que notre système est bon? Et je pense que nous avons besoin d'acteurs qui soient pas des acteurs techniques, pas des acteurs scientifiques, pas des acteurs, si vous voulez, élus, mais nous avons besoin de gens simples qui soient présents sur les différents chantiers, si vous voulez. Simplement, là, le problème, c'est que ce déficit d'engagement, là, je parle en tant que citoyen, ce déficit d'engagement n'est pas un engagement. C'est là que vous exprimez une frustration en disant « on ne nous a pas consultés, on ne nous a pas dit ». Mais je veux dire, bon, il faut bien démarrer à partir d'un moment, il faut un T0, si vous voulez. Le T0, c'est d'abord une reprise d'influence.
On peut dire que ce système tel qu'il existe aujourd'hui n'a pas été vraiment décidé par les gens. On pourrait parler d'un déficit démocratique ou un déficit d'information peut-être, Claude Bourguignon.
Oui, déficit d'information. C'est-à-dire... C'est étonnant, les gens ne connaissent rien, mais vraiment ce qu'on appelle rien à la production agricole. Ils ne savent pas comment produire une céréale, ils ne savent pas. D'ailleurs, on est obligé de leur mettre des panneaux sur l'autoroute, on est obligé de leur mettre des panneaux vaches, mais c'est même puisque c'est qu'une vache, on est obligé de leur mettre des panneaux maïs, mais c'est puisque c'est que du maïs. Ils ignorent tout de la chaîne de production qui va du sol jusqu'à leur assiette, alors qu'ils vont être très très au courant du dernier système informatique, du dernier téléphone portable. Bon, ça, ils connaissent tout ça par cœur. Mais alors, ce qu'il y a dans leur assiette, ils ignorent tout. Ils ne s'y intéressent pas.
Il y a moins d'enjeux financiers. Mais quand on voit, par exemple, le problème avec les OGM, quand vous voyez que en France, la plupart des gens sont contre, et que même le gouvernement, d'un côté, va dire on est contre, mais il y a tellement eu d'argent. Les industries agroalimentaires ne peuvent pas reculer. C'est des milliards qui ont été investis dans cette recherche. Et coûte que coûte, on nous fera passer les OGM, même si politiquement, la France ou d'autres pays disent non, on passera, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, c'est très, très insidieux, puisqu'à l'heure actuelle, si vous achetez des produits qui viennent des États-Unis ou autres, et qu'on vous met soja, je défie quelqu'un de dire qu'il y a 0% d'OGM. Aux États-Unis, tous les sojas en ont plus ou moins. Donc en fait, on vous fait passer, on vous dit, bon, vous avez 1 ou 2% d'OGM, c'est pas grave, vous mutez pas et tout. Mais en fait, c'est complètement insidieux. Et même, je pense, si politiquement, il y a une position par rapport à l'alimentation, il y a tellement d'enjeux économiques avec d'autres pays qu'en fait, ce sont les industries, l'argent qui va lier par rapport à la nourriture. C'est beaucoup plus fort qu'une industrie de voiture.
Alors aujourd'hui, le seul pouvoir de contestation, c'est peut-être celui de la parole des écologistes, mais qui sont obligés, pour lancer l'alerte, de faire preuve de désobéissance civile pour se faire entendre. Et encore, ça reste lettre morte.
Civile, comme vous dites. Oui, désobéissance civile. Et puis, il y a un gros problème, c'est que les écologistes connaissent mal l'agriculture. La plupart n'ont pas de connaissances en agronomie. Donc, ils disent beaucoup de bêtises. Par exemple, sur les OGM, ils disent que ça va tuer les gens, donner des cancers. Il n'est pas là le problème des OGM. Le problème des OGM est beaucoup plus grave que ça. C'est que c'est une attaque directe à la démocratie. Puisqu'en fait, les OGM contaminent les champs d'à côté. Ça veut dire donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, un agriculteur, il a envie de se mettre en biologie, il peut se mettre en biologie. Il veut se mettre en biodynamie, il se met en biodynamie. Il veut se mettre en conventionnel, il peut le faire. Une fois qu'il y aura des OGM, ils ne pourront plus rien faire d'autre que les OGM. C'est la fin de la démocratie. Une démocratie, c'est le choix. Quand vous n'avez plus de choix, ça s'appelle le fascisme ou la tyrannie ou ce que vous voulez. C'est un système idéologique. Les OGM sont une très grave atteinte à la démocratie. Et ça, les citoyens, ils ne le réalisent pas. Ils laissent faire. Il faut garder nos semences, il faut garder la biodiversité. Les OGM sont une atteinte gravissime à la démocratie. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est pas que ça va donner le cancer, c'est que c'est la mort de la démocratie.
N'exagère pas, nous ne sommes pas responsables de tout.
Il est toujours aussi doué pour la justification. Moi, je sais que ça ne me lave pas de mon silence, ni de mes mensonges.
Mmh.
jamais peuple avait confiance en moi. Ma réputation de climatologue et mes luttes passées leur semblaient un gage d'honnêteté et de rigueur. Quand je prenais une décision, les gens, et surtout les plus faibles et les plus menacés, pensaient que c'était le meilleur choix possible. Ils ne pouvaient pas savoir que j'étais manipulée sous influence. Que mon amour pour toi l'emportait sur tout, au point de me rallier à tes arguments, même si je les savais faux, et au service d'intérêts médiocres et immédiats. Les gens me croyaient au-dessus de la mêlée, alors que j'étais dans la boue jusqu'au cou, et que c'était toi qui m'y maintenais.
Je t'aimais. Mais le pouvoir est ce qu'il est. On ne gouverne pas dans l'innocence. Ce que j'ai fait, ce que je t'ai fait dire et faire était dans la logique du système. Les intérêts économiques et financiers étaient énormes. Et les enjeux politiques aussi.
Pour préserver l'état du monde tel qu'il vous convenait, vous vous êtes voilé la face en jurant que la situation n'était pas si grave. Et que contre l'avis de ceux que vous appeliez des alarmistes irresponsables, il fallait avoir confiance dans l'avenir. Puis, devant l'évidence des dangers, vous vous êtes agité. Vous avez faim de prendre des décisions jamais appliquées pour ne pas léser les intérêts des uns ou des autres. Vous avez calmé les foules inquiètes. D'abord à coups de grands messes et de proclamations, puis vous avez fini par les faire taire à grands coups de trique. Votre bilan, ce fut des centaines de millions d'êtres humains qui sont morts. Soif, de faim, sous le froid ou la canicule engloutie par les eaux. Et je ne parle pas des peuples d'Afrique et d'Asie que vous avez massacrés en utilisant des armes épouvantables parce que la faim et la soif les faisaient remonter vers le nord. Maintenant, la terre est ravagée, la terre est ravagée.
Tout le monde le sait, mais personne ne le croit. La croissance économique infinie est incompatible avec la finitude de la Terre. Le compte à rebours a commencé. Pour d'innombrables espèces animales et végétales, il est déjà trop tard. La catastrophe est déjà arrivée. Mais comment informer à ce stade sur des solutions proposées qui peuvent s'avérer pires que les problèmes à résoudre? Lorsque Bruxelles demande une diminution du gaz à effet de serre dans la production d'énergie européenne, les experts, logiques, constatent que le nucléaire permet de limiter les émissions de CO2. Quand on imagine répandre de la limaille de fer au fond des océans pour réduire l'effet de serre, on voit bien que le problème est posé à l'envers. L'optimisme technologique se présente comme une solution à des problèmes qu'il a lui-même créés. À force de repousser l'idée du pire, c'est-à-dire une nouvelle condition humaine où les risques technologiques de demain sont abandonnés aux logiques des systèmes, il ne nous reste plus qu'à évaluer ce qu'il reste à sauver, gérer la catastrophe mais après coup, comme par exemple à Brescia.
Un contexte en France où, suite à l'accident d'AZF, en fait, on met en place une nouvelle loi, qui est la loi sur les risques technologiques majeurs de 2003, où on construit une concertation territoriale autour des plans des PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, par exemple. Où là, pour la première fois, les acteurs locaux vont avoir un droit au chapitre dans la construction des mesures de sécurité autour d'un site industriel, par exemple. Pollution industrielle qui résulte de 80 ans d'activité industrielle légale, qui ont pollué progressivement un environnement de façon extrêmement forte, une petite ville dans le nord de l'Italie, qui font qu'aujourd'hui, si on devait vraiment se mettre aux normes internationales, il faudrait presque reloger toute la ville. Mais on arrive à, il y a de grandes difficultés pour ça, pour faire quelque chose, pour s'occuper de ce problème.
Une pollution atmosphérique.
Une pollution industrielle.
Mais c'est l'air ou c'est la
c'était
terre
l'eau,
qui est...
en l'occurrence. C'est l'eau. C'est tous les réseaux aquifères qui ont été pollués et qui, en plus, dans une région où on avait besoin d'eau, ont été utilisés pour l'irrigation. Alors je vous laisse imaginer ce que ça a pu donner sur les effets agricoles, sur les effets sanitaires, sur les nappes. C'est une situation extrêmement complexe, mais dans lequel finalement on voit arriver, par exemple, des décisions sanitaires qui viennent en plus de ça détruire complètement la vie des gens qui habitent sur place. C'est-à-dire qu'on les sauve, on protège leur santé, mais on détruit leur vie. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour le coup, vous avez des modes de décision technocratique sur un aspect qui est la santé. Et là, on va dire, on arrête toutes les activités agricoles. Alors, du coup, vous avez des gens qui, des familles d'agriculteurs, qui sont depuis historiquement agriculteurs dans cette région d'Italie. D'un seul coup, on leur dit, vous ne pouvez plus cultiver. De facto, leur maison ne vaut plus un clou. Ils n'ont plus de travail. La pollution, ils l'ont de toute façon, et c'est une pollution métaux lourds qui ne partira pas. Leurs enfants en ont également, les petits-enfants en ont également. Donc d'un seul coup, vous les plongez dans la précarité pour en rajouter une petite couche, si vous voulez. Et vous pouvez vous demander si les modes d'action sont satisfaisants. Et il n'y a personne, puisqu'en plus c'est une pollution historique, légale, il n'y a pas vraiment de responsable. Et donc, on est dans un espèce de blocage. On ne sait pas très bien qui peut payer pour cette affaire-là. Et c'est une sorte de no man's land dans lequel les mesures qui sont prises, paradoxalement, renforcent d'une certaine manière la vulnérabilité, la précarité des gens qui vivent sur place. Et donc, on se rend compte que les niveaux supérieurs sont de plus en plus mal placés pour prendre les décisions. Et en plus, que les acteurs locaux, eux, sont paralysés d'une certaine manière. Parce que, au fond, nos systèmes actuels les dépossèdent de la possibilité de s'organiser. Et de toute façon, ils ne pourront pas s'organiser comme avant en communauté autarcique. On ne peut pas revenir au Moyen-Âge. Donc il faut trouver des modes de gouvernance à plusieurs niveaux qui vont permettre de sortir progressivement de cette situation d'impuissance. Voilà.
Et donc comment que va-t-il advenir de ces habitants qui sont pollués aux métaux lourds alors ?
Ben, si vous voulez, on peut traiter le cas de Brescia où les habitants qui sont pollués aux métaux lourds, au fond, ça s'apparente tout à fait au travail que nous avons pu engager dans le contexte des territoires contaminés. Si vous voulez, ben, de façon effectivement concrète, par exemple, dans le premier projet qui était le projet Ethos, dans lequel j'ai travaillé donc avec une équipe française à partir de 96 dans un village qui est un village qui est dans les territoires contaminés de Biélorussie, dans la zone dite de relogement volontaire, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de relogement obligatoire. Les gens, de cette manière, sont la question du relogement est laissée à leur propre
tirelire.
Oui, tirelire et aussi décision. Il y a quand on a fait une étude sur les raisons qui faisaient que les gens habitaient dans les territoires contaminés, on s'est aperçu que c'est souvent multiple, si vous voulez. Ça va depuis « je ne peux pas quitter ma vieille maman parce que de toute façon elle ne voudra jamais partir et elle habite là ». Ça va depuis « je n'aurai aucun job si je m'en vais d'ici et de toute façon comment trouverai-je un appartement si je vais m'installer en ville ». Ça, c'est également « je ne pourrai jamais me séparer de la terre de mes ancêtres ».« C'est une région magnifique, j'y ai grandi, je n'ai pas envie de partir » ou « je suis parti et la vie m'a paru pas acceptable et c'est pour ça que je suis revenu ». Ou alors « je viens du Kazakhstan et là nous, les Russes, nous n'avons plus notre place et donc nous sommes décidés de revenir. Et là, c'est le seul endroit où on a trouvé une maison pas chère, etc. Donc il y a plein de raisons, si vous voulez. Et c'est un fait aussi que dans ces territoires contaminés, il y a eu des centaines de milliers de relogés, mais il reste toujours 7 ou 8 millions de personnes. Un des principaux problèmes, finalement, qui existait dans le village où nous avons travaillé, c'est effectivement la contamination alimentaire et en particulier la contamination du lait. Contamination du lait qui venait du fait que, au fond, les vaches concentrent, en mangeant beaucoup de nourriture, en faisant une extraction, concentrent la contamination que vous retrouvez ensuite dans le lait. Voilà. Et c'est un des principaux vecteurs d'exposition radiologique, l'alimentation, autour de deux principaux vecteurs qui sont donc le lait et les champignons. Voilà. Donc nous, on leur a proposé de faire une sorte de campagne d'évaluation de leur pâturage. Ils en avaient 7 dans un village. Et donc, avec eux, nous avons bâti une prise d'échantillons. Nous avons organisé la relation avec un petit laboratoire qui était susceptible de traiter ça localement. Et donc, progressivement, on a vu arriver une sorte de cartographie de ces pâturages. Et en fait, sur ces pâturages, on s'est rendu compte que sur les 7, il y en avait 5 qui se situaient, mettons, légèrement en dessous de la norme en moyenne, c'est-à-dire aux alentours de entre 150 et 200 becquerels, et il y en avait au contraire 2 autres qui étaient plutôt autour de 2000 becquerels. Et en fait, donc, qu'est-ce que nous ont dit les membres du groupe de travail? Ils nous ont dit, ben, les 5 pâturages là que vous avez qui sont un peu en dessous de 200 becquerels, ben, en fait, ce sont des pâturages améliorés. Ah oui, alors nous, on leur a dit, mais on croyait que ça n'avait eu aucun effet. Ah ben si, on voit bien qu'effectivement, et en fait, ce sont des techniques qui sont utilisées, qui consistent à mettre des engrais, de manière à ce que la plante aille chercher plutôt à se nourrir avec ces engrais, plutôt que d'aller chercher profond, récupérer de la contamination. Voilà. Donc, on a constaté avec eux que là, effectivement, l'action des pouvoirs publics avait été relativement efficace.
Des engrais chimiques
ou... Oui, ce sont des engrais chimiques, oui. Et parallèlement à ça, eh bien, les deux pâturages très contaminés, en revanche, et bien là, ils nous ont dit, bah oui, là, autrefois, on avait des pâturages améliorés, mais le chef du kolkhoz nous a repris ce pâturage pour ses vaches à lui et il nous a dit d'aller en forêt. Et en forêt, effectivement, la forêt est un écosystème qui concentre la contamination, donc l'herbe est très contaminée, et donc le lait est très contaminé. Mais au fond, donc le simple fait d'avoir illustré et d'avoir mis en image cette question a fait que 2 mois plus tard, quand nous sommes revenus, le problème était réglé.
C'est-à-dire, est-ce que le lait est vraiment redescendu dans les normes ?
Ils ont eu 2 pâturages et ils ont eu un lait qui est redescendu au niveau des autres. Voilà.
Qui était bien au-dessus de la norme.
Nous étions entre 150 et 200 et la norme étant aux alentours de 100. Mais quand vous êtes une mère de famille et que vous avez fait passer du lait de 2000 à 150, déjà vous vous sentez mieux si c'est vos enfants qui le boivent. Ceci étant, je ne veux pas faire le tableau trop rose puisqu'il subsiste des problèmes. Là, je veux dire, il reste de la contamination. On voit bien que on amène des engrais et que la question c'est dans 5 ans, est-ce qu'il va falloir en mettre, qui va payer. Enfin, donc tout ça est extrêmement complexe. Et puis la contamination à long terme, même à faible niveau, est une question, je dirais, qui pose tout un tas de problèmes pour la santé. Aujourd'hui, on considère et on commence à se douter que de plus en plus, même des niveaux de contamination faibles ont des effets, notamment sur les enfants, qui ne sont pas les effets qu'on connaissait les mieux, qui sont des effets diffus sur le système cardiovasculaire, sur tout un tas d'effets nouveaux qui font que ça pose question. Il se trouve qu'il y a des tâches importantes en Norvège, en Suède, en Finlande, qui viennent de l'accident de Tchernobyl. Et c'est un fait aussi que les modes de vie traditionnelle des populations familles ou lapons font qu'ils sont particulièrement vulnérables aux effets de la contamination.
Et donc là, c'est pas lié à une histoire de consommation, c'est-à-dire eux sont en quelque sorte les derniers à avoir les répercussions de certains modes de vie. Eux, ils sont encore en mode de vie traditionnel.
Tout
justement.
À fait, justement. Ils sont effectivement sur des modes de vie traditionnels, c'est-à-dire que c'est le fait, pour être très concret, qu'un renne, qui est leur alimentation principale, couvre des milliers de kilomètres dans sa vie pour manger de l'herbe et concentre très fortement de la contamination qui est diffuse, je dirais, sur le nord du globe, qui fait qu'ils vont être très sensibles à des pollutions chimiques, organiques ou radiologiques.
Vous me parliez à propos des rennes, des problèmes de concentration de pesticides.
Oui, c'est une question qui a émergé il y a une quinzaine d'années, oui, ce qu'on appelle les POPs, Persistent Organic Pollutants, qui venaient au fond de pratiques agricoles qui étaient plutôt dans le sud de l'hémisphère, où des composants chimiques remontés dans la haute atmosphère étaient emmenés et ensuite étaient condensés et retombés en pluie sur le nord de l'hémisphère. Par exemple. Bon, mais c'est aussi ce qui s'est passé au moment de l'accident de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'il y a eu des dépôts et aujourd'hui, il y a une trace, si vous voulez.
Et cette trace
a des effets quand on va ensuite voir les conditions de vie et les modes, la santé des populations, on s'aperçoit qu'elles ont des niveaux de contamination qui sont non négligeables à cause de ça.
Alors évidemment, les gens vous disent oui, mais c'est en très petite dose, donc c'est pas grave. Sauf qu'en biologie, il y a un facteur très intéressant qui s'appelle, qui dit que petite dose plus petite dose plus petite dose peuvent avoir des effets qu'on appelle synergiques, c'est-à-dire avoir des effets beaucoup plus violents. Le problème, c'est que c'est indécelable sur le plan scientifique. Comme les gens avalent des masses incroyables de produits chimiques, nous vivons dans un monde chimique, dire c'est ce produit-là qui a donné le cancer à la personne, vous pouvez pas. Je vous dirai. Quand vous allez dans un supermarché, vous voulez acheter une tarte aux cerises, je vais vous expliquer tout ce que vous allez avaler, alors que c'est pas ça que vous aviez demandé au départ, vous aviez demandé de manger une tarte aux cerises. Je vais vous raconter ce qui lui est arrivé à cette tarte aux cerises. Alors pour faire une tarte, il faut de la farine. Les grains de blé ont été enrobés d'un fongicide avant semis. Pendant sa culture, le blé a reçu entre 2 et 6 traitements de pesticides selon les années, un traitement aux hormones pour raccourcir les tiges, afin d'éviter qu'il se verse. C'est comme on lui a mis de l'engrais, il se renverse pour qu'il tombe pas par terre, on lui met une hormone pour qu'il se couche pas. Il a reçu 240 kg d'azote à l'hectare, 100 kg de phosphore, 100 kg de potassium.
C'était sur les docks, 2007, où le défi écologique.
Chlorure de carbone et au bisulfite de carbone, puis arrosé au chlore pyriphosméthyle. Pour la mouture, la farine reçoit du chlorure de nitrosine, puis de l'acide ascorbique, de la farine de fèves, du gluten et de l'amylase.
Avec Lydia et Claude Bourguignon, tous deux chercheurs au laboratoire d'analyse microbiologique des sols, Max Vidal, géologue de l'Université d'Orléans, Gilles Herriard-Dubreuil de Mutadis, spécialisé dans la gestion sociale du risque, et les extraits de Fin de terre, une pièce de Georges de Cagliari qui se joue au Théâtre Clavel jusqu'au 10 mars 2007.
Contenant des antioxydants E300 à E311, des arômes, des émulsifiants comme l'alginate de
calcium. Une bibliographie est disponible sur le site de Sur les docs, sur les pages de franceculture.com.
Des agents liants comme le lignosulfate et enfin des appétants pour qu'elle puisse avaler tout ça comme le glutamate de sodium. On a réussi à faire manger de la viande aux vaches qu'en mettant des appétants, sinon une vache, vous ne lui faites jamais manger de la viande. Pour faire avaler tous ces granulés industriels, on met des appétants aux animaux, sinon ils arrivent, ils sentent, ils veulent pas manger. Donc on utilise des molécules qui agissent sur le système bulbaire du cerveau et qui leur font croire que c'est bon. Donc quand vous achetez une soupe en sachet, si on vous mettait pas d'appétants, vous iriez vomir tout de suite aux toilettes. Mais quand vous avez mis une molécule chimique, vous dites, oh, elle est bonne cette soupe. Ouais. Hein, par exemple.
Prise de son. Charlotte Hennebil, Yves Lehorse, Laurent Lucas, Benjamin Thomas.
Le ketchup.
Mixage, Guy Senot. Réalisation, Guillaume Baldi, une émission de Lydia Benitzrak.
Elles reçoivent en plus des antibiotiques, et en particulier des anticoccidiens, quotidiennement. Dans l'élevage industriel, la distribution d'antibiotiques est quotidienne. Les œufs, avant séchage, reçoivent des émulsifiants, des agents actifs de surface comme l'acide colique et une enzyme pour retirer le sucre du blanc. Le lait, lui, provient d'un élevage industriel où les vaches reçoivent une alimentation riche en produits chimiques, antibiotiques comme le flavophospholipol E712, du mono-1,6-sodium E714, des antioxydants comme l'ascorbate de sodium E301, l'alpha-tocopherol de synthèse. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit.
C'était Sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. Rendez-vous demain pour le dernier volet de 2007 avant l'heure avec l'émission sur les élections présidentielles d'Anaïs Quin et Yvon Croisier intitulée Les seconds tours. Ce soir à 20h30, Les pieds sur terre, émission documentaire proposée par Sonia Kronlund. Tout de suite, Julie Clarigny et Brice Couturier pour l'émission de débat du Grain à Moudre.
Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Aujourd'hui, la réforme du statut pénal du chef de l'État. Faut-il transformer l'Élysée en sanctuaire judiciaire ? Moudre, Brice Couturier, Julie Clarigny. La réforme du statut pénal du chef de l'État est-elle inutile et dangereuse comme le craignent certains ? On a cru une fois de plus à un effet d'annonce, mais non, cette fois-ci, le projet de loi devrait bel et bien être débattu demain à l'Assemblée nationale. Ce projet, qui modifiera donc le statut pénal du chef de l'État, reprend dans ses grandes lignes les conclusions auxquelles avait abouti la commission Avril en décembre 2002. Le président de la République ne peut être soumis à la justice ordinaire durant son mandat. Mais nouveauté, il pourra dorénavant, si le texte est voté, être destitué, je cite, « en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Autrement dit, le principe d'inviolabilité du président qui interdit toute poursuite judiciaire à son encontre tant qu'il est en fonction, principe qui avait été tant débattu, est maintenu, mais le projet de loi instaure la possibilité pour le Parlement de le destituer, non pas nécessairement à cause de l'infraction dont il est éventuellement l'auteur, mais dans le cas où il ne serait plus en mesure d'exercer ses fonctions à cause des critiques dont il serait devenu l'objet. C'est bien la responsabilité politique qui sera dans ce scénario interpellée. À la veille de sa présentation devant les parlementaires, le texte ne fait pas l'unanimité, même si la discipline des partis le verra probablement voter. Les réserves sont nombreuses, tant à droite qu'à gauche. Le texte modifie les institutions de manière substantielle, font remarquer les députés. Certains y voient le spectre d'un retour aux vieilles pratiques, à des régimes d'assemblée où l'on pourra mettre en cause politiquement le président. Nous en débattrons en essayant de voir quelle autre piste aurait pu être suivie. Et puis bien sûr, nous nous demanderons quelles seront les suites judiciaires dans quelques mois des dossiers dans lesquels lesquels figure le nom de Jacques Chirac. En tout cas, il faut avouer que cela ne manquerait pas de sel si la dernière loi des 12 années de la présidence de Jacques Chirac concernait en effet le statut pénal du chef de l'État. Nous en parlons donc ce soir avec Anne Levade, qui est professeure de droit public à l'Université Paris 12. Elle est vice-doyenne de la faculté de droit et elle était donc membre de la commission Avril qui avait rendu ses premiers rapports donc en décembre 2002. Avec nous également Thomas Clay, qui lui est professeur à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, professeur de droit évidemment, vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Et avec nous également deux députés que je remercie dont je remercie la présence, excusez-moi, Claude Goesgen, qui est ancien ministre du budget, député UMP, ancien ministre
de la réforme de l'État et de la décentralisation.
Et de la décentralisation, député